Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Tant que le Rwanda et ses alliés du M23 continueront à attiser le feu, la cessation des hostilités et la désescalade tant souhaitées ne seront pas possibles. Déclaration de l'ambassadeur de la RDC à l'ONU, Zenon Mukongo, s'est ainsi exprimé hier à New York au Conseil de sécurité des Nations Unies. À Kinshasa, un homme a été tué ce mardi à son domicile au quartier Matadikiba à la commune de Mangafula. Selon sa fille, la victime travaillait dans un service de sécurité et c'est le quatrième meurtre enregistré en moins d'une semaine à Kinshasa après celui d'un magistrat le week-end à Nsele. Et puis, fin de la mission du gouvernement congolais et le Fonds international de développement agricole FIDA le week-end au Maniema, mission qui consistait à superviser les activités financées par le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR. Pour en parler, nous recevons Rebecca Lukusa, analyste pour le portefeuille du bureau pays du FIDA. Madame, Messieurs, bonjour. La cessation des hostilités et la désescalade tant souhaitées ne seront pas possibles tant que le Rwanda et ses alliés du M23 continueront à attiser le feu et que les dirigeants rwandais ne respecteront pas leurs engagements dans le cadre du processus de Luanda. À propos de l'ambassadeur de la RDC aux Nations Unies, Zenon Mukongo s'est ainsi exprimé hier à New York lors de la présentation du rapport trimestriel de la chef de la MONUSCO devant les membres du Conseil de sécurité. Il indique par ailleurs que la RDC défendra son intégrité territoriale, sa souveraineté et la sécurité de sa population à tout prix. On écoute le représentant de la RDC aux Nations Unies.
Il faut reconnaître, Madame la Présidente, que la cessation des hostilités et la désescalade tant souhaitées ne seront pas possibles tant que le Rwanda et ses alliés du M23 continueront à attiser le feu et que les dirigeants rwandais ne respecteront pas leurs engagements dans le cadre du processus de Luanda. La République démocratique du Congo défendra son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa sécurité, la sécurité de ses populations à tout prix, tout en restant ouverte à un règlement politique du conflit avec le Rwanda par la voie diplomatique. Cependant, cette voie ne sera crédible que si les troupes rwandaises se retirent effectivement du territoire congolais pour permettre un dialogue franc et constructif. Mon gouvernement appelle donc le Conseil de sécurité, garant de la paix et de la sécurité internationale, à prendre pleinement conscience du danger que représente le comportement actuel des autorités rwandaises et à assumer sa responsabilité en adoptant toutes les mesures préventives nécessaires pour mettre fin à une détérioration continue de cette situation qui menace toute la région.
Rappelons que lors de la présentation de ce rapport hier, la chef de la MONUSCO a exprimé sa vive préoccupation face à l'avancement rapide du M23 au Nord Kivu et de son expansion au Sud Kivu. Par ailleurs, la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme recommande à la communauté internationale d'obtenir du Rwanda le retrait de ses militaires du sol congolais. Tout en saluant la trêve humanitaire décrétée dans l'est de la RDC, la VSV pense qu'il faut aller plus loin et profiter de cette opportunité pour cesser les hostilités dans cette partie du pays et veiller à ce qu'il n'y ait pas renforcement des hommes en armes et équipements durant cette trêve. Écoutez la déclaration de la VSV par son directeur exécutif, Rostem Anquet. Est au micro de Jeff Ngoy.
La Voix des Sans-Voix croit que seules des actions concrètes, voire des mesures coercitives à l'encontre du gouvernement rwandais et ne ciblant pas la population rwandaise pourraient faire changer le régime de Kigali pour le contraindre à privilégier la paix effective et mettre ainsi fin aux violations graves et massives des droits humains des populations congolaises, dont les populations congolaises, voulais-je dire, sont victimes au quotidien. Aussi, il est important que la communauté internationale aille au-delà de la trêve ou profite de ce temps pour demander au gouvernement rwandais de retirer sans autre forme de procès ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo. De même, cette trêve serait encore très utile si la communauté internationale pouvait imposer au Rwanda et au M23 de ne pas se renforcer en hommes et en équipement pendant toute la durée de la trêve.
Notez aussi que la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC est au cœur de la diplomatie parlementaire à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire francophone, assise ouverte le 5 juillet dernier à Montréal au Canada. La délégation congolaise conduite par Vital Kamerhe tente de convaincre plus de 300 parlementaires du monde francophone qui y prennent part à condamner l'agression rwandaise et ougandaise dont la RDC est victime. Alors que Vital Kamerhe dénonce le silence de la secrétaire générale de la francophonie face à cette agression, Louise Mushikiwabo, elle, plaide pour le respect des accords afin de promouvoir la paix dans la région. Des détails avec Michel Kifindangoy.
Après les travaux en commission où ont participé les parlementaires congolais, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, a amorcé une diplomatie parlementaire afin de dénoncer la guerre à l'est du pays suite à l'agression rwandaise en soutien aux rebelles du M23. Après l'intervention de la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, le président Vital Kamerhe a tout de suite exprimé sa désapprobation.
Aujourd'hui, nous protestons de la manière la plus énergique de voir que Madame la secrétaire générale a parlé des conflits dans le monde, énumérant les pays. Je préfère croire que c'était un oubli plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence des troupes rwandaises et des territoires congolais ou les troupes ougandaises.
En réaction, la secrétaire générale de la francophonie a plaidé pour la paix. Louise Mushikiwabo.
Moi, je souhaite la paix. Je souhaite que les frères et sœurs congolais, puisque je suis voisine du Congo, puissent vivre en paix et que pour cela, il faudrait que les décisions qui sont prises à travers les différentes médiations puissent être appliquées par tout le monde.
Notez que le président Vital Kamerhe prendra ce mardi officiellement la parole à la 49e session plénière de l'Assemblée parlementaire francophone.
Et puis, la situation humanitaire dans la province de l'Ituri nécessite des solutions durables, notamment le retour des déplacés dans leur village d'origine. Cette déclaration a été faite hier par le coordonnateur des affaires humanitaires, Bruno Lemarquis, en mission en Ituri. Dans son échange avec le gouverneur de cette province, il a précisé que les moyens financiers sont très limités pour l'assistance humanitaire de tous les déplacés installés dans les sites. Reportage de Aminata Moussaïdizi.
La province de l'Ituri compte à ce jour plus d'1 300 000 déplacés qui vivent dans des conditions précaires. C'est là, malgré tous les efforts du gouvernement et des humanitaires pour atténuer leurs souffrances, a déclaré le coordonnateur des affaires humanitaires en RDC. Il a relevé les contraintes de financement par rapport aux différentes crises dans le monde qui ne permettent pas de répondre à tous les besoins des déplacés, ce qui nécessite des solutions durables sur tous les retours des déplacés dans les milieux sécurisés et leur accompagnement pour leur réinsertion dans leurs communautés respectives. Bruno Lemarquis.
Qu'une zone se stabilise, faire tout ce qui est possible pour que l'aide humanitaire diminue, mais qu'on assiste les populations à retourner chez elles, à retrouver leurs moyens de subsistance, leurs activités économiques, faire en sorte que les services sociaux de base, l'éducation, la santé fonctionnent. Si les gens sont prêts à retourner chez eux, il faut vraiment les appuyer à travers ce qu'on appelle des solutions durables.
De son côté, le gouverneur de province a rassuré son hôte que la situation sécuritaire s'est améliorée depuis une année dans plusieurs entités où on assiste au retour volontaire de certains déplacés. Bounia, Aminata Moussaïdizi Kitambala, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, à Kinshasa, un homme a été tué par balle ce mardi à son domicile, situé au croisement des avenues Lititi et Lokolo, au quartier Matadikibala dans la commune de Mangafula. C'est le 4e meurtre enregistré à Kinshasa en moins d'une semaine. La police dit avoir renforcé sa présence dans les zones chaudes. Reportage de Fideli Chiela et Babel Pongo Massimango.
C'est vers 1h45 que ces bandits ont fait irruption dans la parcelle de cet agent de renseignement connu au quartier sous le nom de Papa Goliath. Ils exigent de l'argent, fouillent tout ce qui pouvait constituer une cachette et finalement tirent sur ce père de famille. Sa fille témoigne.
Et puis il y a eu une discussion avec papa au couloir. Donc on ne sait pas au juste qu'est-ce qui s'est passé. On a entendu un coup de feu qui est parti. Et nous, quand on cherchait à localiser papa parce qu'on ne l'entendait plus, on l'a trouvé au couloir allongé dans un bain de sang.
C'est sur le 4e meurtre enregistré à Kinshasa en moins d'une semaine. Le week-end, c'est un magistrat qui a été tué par balle dans la commune de Lancélé. Jeudi et vendredi, et ce sont les corps sans vie de deux chauffeurs de taxi qui ont été retrouvés dans la commune de Lagombe. Contacté, le commissaire provincial de la PNC à Kinshasa affirme que pour les cas de ce mardi, la police a été alertée en retard. Il affirme que 4 jeeps de la PNC sont arrivés sur place, mais les criminels étaient déjà partis. Pour le général Blaise Mboula Kilimbalimba, la police continue à mener des patrouilles nocturnes avec un renfort en jeep dans les zones chaudes. Il demande à la population de demeurer vigilante et de signaler tout mouvement suspect dans leur quartier.
Rendons-nous au Nord Kivu. Le député provincial honoraire de Lubero salue le déroulement des audiences foraines tenues à Lubero Cité et à Limbongo contre une cinquantaine de militaires. Ces derniers sont poursuivis par la justice militaire pour plusieurs chefs d'accusation, dont la fuite devant l'ennemi. Il s'insurge cependant contre le jugement condamnant à la peine de mort certains militaires du rang pour cette infraction. Il leur demande d'user de leurs prérogatives reconnues par la loi en interjetant appel contre cette décision de la justice militaire. S'appuyant sur l'adage « il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais commandants », ce notable estime que ce sont plutôt les commandants qui devraient être les premiers poursuivis, les militaires du rang n'exécutant que les ordres de leur chef. On écoute Eze Kanendu.
Il n'y a pas une mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais commandant, dit. Le fait de poursuivre les soldats des rangs et laisser impunis les commandants de troupes, d'ailleurs, décrié par un bon nombre des acteurs de la société civile, notables et acteurs politiques, d'avoir décroché dans plusieurs villages et agglomérations, constituerait un déni de justice, et surtout que l'accessoire fut le principal. Ceux qui doivent être poursuivis le premier, ce sont les commandants qui laissent les villages et munitions entre la main de l'ennemi, et non les petits soldats des rangs qui se sacrifient au front. Voilà pourquoi nous demandons à la justice de se saisir de ses commandants. Le plus tôt, c'est leur mien.
Par ailleurs, 22 militaires des FARDC dans le territoire de Lubero sont condamnés à la peine capitale par le tribunal militaire de garnison de Butembo. Cette juridiction siège en audience foraine depuis 2 semaines dans le territoire de Lubero, non loin de la ligne de front entre les FARDC et les rebelles du M23. Ces militaires jugés en flagrance ont été reconnus coupables notamment de lâcheté, fuite devant l'ennemi et dissipation des munitions de guerre. Des détails avec André Kitenge.
Le verdict du tribunal militaire de garnison de Butembo a été rendu lundi soir après 4 jours d'audience publique. Les 22 militaires des FARDC condamnés ont été reconnus coupables de lâcheté, fuite devant l'ennemi dans les combats entre l'armée et les rebelles du M23 dans le territoire de Lubero, dissipation des munitions de guerre et pillage. 4 officiers subalternes, notamment 3 capitaines et 1 lieutenant, poursuivis pour lenteur dans l'exécution des ordres, ont été acquittés faute de preuves. Depuis l'occupation par le M23 des cités de Kanyabayonga, Kaina et Kirumba dans le territoire de Lubero, 51 militaires, parmi lesquels 2 capitaines, ont été condamnés, dont certains à la peine de mort et d'autres à 10 ans de servitude pénale principale. Ils ont été tous non loin de la ligne de front. Selon le substitut de l'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison de Butembo, ces procès ont un caractère dissuasif et pédagogique, à savoir lutter contre l'impunité et servir d'exemple à d'autres militaires dans leur comportement au front, mais aussi encourager la population à dénoncer les militaires qui se comportent en violation de la loi. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Justice toujours. Au procès de la tentative du coup d'État manqué le 19 mai dernier à Kinshasa, 3 prévenus américains déchargent leur co-prévenu belge Jean-Jacques Wondo, Benjamin Zalman, Taylor Thompson et Marcel Malanga témoignent n'avoir jamais connu ni aperçu dans leur mouvement l'expert militaire belge, ancien consultant à l'agence nationale l'ANER. À la 7e audience publique hier, devant le tribunal militaire à la prison de Ndolo, Zalman et Taylor sont revenus sur la même déposition faite précédemment par Malanga, à savoir qu'ils se sont retrouvés dans ce mouvement du 19 mai par contrainte, car le chef de la bande menaçait de les tuer en cas de désobéissance. Le tribunal militaire poursuivra ses interrogatoires le vendredi prochain à la prison de Ndolo avec les femmes travailleuses de l'hôtel Auberge Momo 19 de Ngaliema. Kasaï Oriental, plus de 100 maisons construites anarchiquement sur le site 4046, appelé communément Mitembela, dans la commune de la Kanchi, à Mbujimayi, seront démolies dans les jours prochains, annonce faite par la société minière de Bakwanga, Miba, dans un communiqué publié le week-end. Le site 4046 est en plein lotissement depuis quelques mois par les membres de l'association Bakwanga Uni pour la reconstruction et la prospérité, BURP en sigle. Explication de Esther Ndalafina.
Le récent communiqué de la société minière de Bakwangamiba concerne plus de 100 maisons qui sont en pleine construction sur le site appelé Mintembela dans la commune de la Kanchi. C'est depuis près de 3 mois que les responsables de BURP, c'est-à-dire Association Bakwanga Unie pour la Reconstruction et la Prospérité, mettent en vente des terrains sur ce site Mintembela. Les membres de BURP brandissent un arrêt de la justice prononcé par défaut contre l'AMIBA. C'est ainsi qu'ils sont parfois accompagnés de quelques agents de l'ordre dans les opérations de lotissement. En réaction, l'AMIBA signe et persiste que la concession querellée reste son patrimoine et il est couvert par un titre foncier en cours de validité. Elle demande à cet effet à la population à s'abstenir de jeter son argent en achetant un terrain sur ce site privé au risque d'être démoli comme ce fut en 2008. Signalons que l'AMIBA a perdu au cours de ces 3 dernières années plus de 5 concessions. Esther Ndalafina Mbouji. Radio Okapi.
Actualité internationale. Les familles des victimes des crashs des avions Boeing 737 MAX ont réagi à l'annonce d'un accord trouvé entre le ministère américain de la Justice et le constructeur aéronautique. Elles s'insurgent contre un accord généreux ne reposant sur aucun principe. Dans la foulée, elles ont déposé une motion de contestation réclamant une audience auprès du tribunal fédéral du Texas chargé de cette affaire. Cet accord dit de poursuite différée datant du 7 janvier 2021 s'attarde sur un programme de conformité et d'éthique et non sur les victimes. En acceptant de plaider coupable, Boeing évite ainsi de se voir imposer un procès pour 2 crashs meurtriers survenus en 2018 et en 2019.
L'invité.
La mission de supervision conjointe gouvernement congolais, Fonds international de développement agricole FIDA, a clôturé sa mission le week-end au Maniema. Mission qui consistait à superviser les activités financées par le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR. Après s'être rendu compte de l'état d'avancement de ces activités, la mission, satisfaite, formule quelques recommandations pour atteindre les objectifs du projet. Pour en parler, nous recevons Madame Rebecca Lukusa, analyste pour le portefeuille du bureau Pays FIDA. Elle est avec Florence Kizalunga.
Madame Rebecca Lukusa, bonjour.
Bonjour.
Dans une mission conjointe avec le gouvernement congolais, vous êtes venu pour la supervision des activités menées par PADRIR dans la province. Après avoir sillonné une grande partie de cette province et là où on mène ces activités, vos constats sont communs?
Bon, effectivement, nous sommes dans une mission conjointe de supervision du programme PADRIR. Nous avons été dans plusieurs sites pour voir la réalisation, les activités appuyées par le PADRIR. Nous avons interagi avec le bénéficiaire, les services techniques. Les constats d'emblée, c'est que les programmes commencent à prendre son envol. Ça veut dire que maintenant, les services techniques sont à pied d'œuvre pour apporter l'accompagnement technique, chacun en fonction de son mandat. Ça, c'est le premier élément qui est très important. Deuxièmement, on a vu les bénéficiaires qui ont produit, qui ont témoigné sur la qualité de la semence qu'ils ont reçue en termes de la productivité qu'ils ont réalisée, ce qui aussi est une bonne chose parce que, justement, PADRIR, c'est un programme de développement du secteur rural et agricole. Donc, quand les ménages producteurs font de bonnes productions, ça va influer sur l'économie locale. Mais aussi, ça va générer de revenus pour ces ménages producteurs et ils vont améliorer leurs conditions de vie.
On peut dire que FIDA est satisfait, la mission est satisfaite de réalisation des PADRIR sur terrain.
Bon, comparé à ce que les missions précédentes de la supervision avaient constaté, oui, effectivement, on voit que les équipes sont au travail, font le travail. Mais il y a eu des recommandations qu'on a formulées aussi pour densifier ce qui est fait déjà et amplifier pour avoir un impact assez important à l'échelle provinciale. Donc il y a eu des recommandations qu'on leur a formulées pour ce faire.
Par exemple, quelles recommandations, madame?
On a recommandé aux services techniques, vu que la majorité, ça c'est la situation de Maniema, qui la majorité des services techniques ont déjà leur protocole d'accord signé et ils ont commencé même à décaisser. Donc on souhaite vraiment que l'ampleur de l'accompagnement technique puisse accroître mais aussi les formations dans les mises à niveau. Il y a des formations qui sont prévues en faveur des techniciens de terrain de ces services-là qui puissent organiser ces formations-là pour que leurs techniciens qui sont en contact quotidiennement avec les producteurs puissent apporter les formations, l'encadrement, l'accompagnement sur les itinéraires techniques en fonction du contexte, surtout qu'on est dans un contexte de changement climatique.
Madame, vous avez été par exemple au village Kenyé où les bénéficiaires ont souhaité vraiment avoir l'appui augmenté. Il y a certains d'autres qui disent qu'ils ont besoin d'être renforcés en capacité, par exemple dans des stations d'avélévinage. Ils ont formulé beaucoup de recommandations envers la mission. Qu'est-ce que vous leur dites à votre côté?
Bon, la mission a pris note des attentes que les bénéficiaires ont formulé, mais il faut aussi dire que les projets a souvent ses objectifs et les moyens qui sont limités. Donc, en fonction des priorités et de l'impact, il y a Senadepa qui est déjà à pied d'œuvre, va les accompagner parce que pour le secteur pisciculture, principalement, les gros de l'accompagnement, c'est les formations. Les pisciculteurs, les éleveurs avec lesquels on a interagi, ils font un peu les choses comme à la traditionnelle. Ils ont vraiment besoin d'être formés. C'est ça le plus important, accompagnement ou appui dont ils ont besoin. Mais à côté de ça, il y a aussi des stations d'alévinage qui sont en train d'être parsemées dans la province. Et donc, ça va permettre que la fourniture en alévin s'efface localement sans trop de difficultés. Et pour cela, donc, le plus important maintenant à ce stade, c'est la maîtrise de la technicité de la conduite de la pisciculture. Et ça, Senadepa est là pour les accompagner.
Madame Rebecca Lukusa, merci.
Je vous remercie, Madame Florence.
Et par ici prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres.